au cœur de la nature et du savoir-faire artisanal, rencontre avec Florence Daluze, artisan d'art et lapidaire, amoureuse des grands espaces qui parcourent les paysages à la recherche de roches brutes. Week-end porte ouverte de son atelier, les 6, 7, 13 et 14 décembre. Florence Daluze, au micro de Chris Alessandri. Florence Daluze, vous êtes sculpteur, artiste, lapidaire, c'est-à-dire pour définir un tout petit peu.
En fait, j'ai mis sculpteur lapidaire parce qu'à l'origine, je suis un sculpteur. Et donc, j'ai dévié sur le métier de lapidaire qui, en fait, sont des petites sculptures. Je peux sculpter des toutes petites pièces et en même temps tailler des cabochons, des bijoux et des pendules de radiesthésie. Je fais même des couteaux, des manches de couteaux depuis peu.
La taille de la pierre, c'est pas quelque chose dans laquelle on se lance comme ça. Il y a un bagage, bien sûr, de votre côté, mais également peut-être une fascination aussi derrière tout ça.
En fait, c'est arrivé sur ma route comme une allée de château. Hein. J'ai rencontré un vieux lapidaire qui m'a appris à travailler sur toutes les pierres de France et un amoureux géologue. Donc les deux réunis, ça a donné ce que je suis aujourd'hui au bout de toutes ces années. En fait, ça m'a montré notre territoire. Hein. Et à l'époque, personne n'exploitait les pierres de région avec la technique lapidaire. Dans le Var, par exemple, c'est très très riche en pierres. Et ici, dans les Alpes également. Et après, c'est un trou sans fin. Quoi. On n'arrête pas de trouver des pierres de toutes les sortes. Et moi, je suis spécialisée en pierres dures. Donc c'est des pierres qui n'ont pas de valeur comme la pierre fine ou la pierre précieuse. Hein. Donc moi je reste sur vraiment la pierre dure, la pierre, nos pierres, nos calcaires. On peut trouver aussi des grenats, des choses comme ça, les marbres. Voilà, je reste dans cette rubrique-là. Mais ce que j'aime, c'est les mélanges de la nature. Parce que quelquefois, il y a des défauts et ça, c'est exploitable en lapidaire.
C'est un métier qui est très rare, hein, ce que vous faites, ce que vous exercez.
Oui, ça a disparu fin 19e siècle, je crois. Ça a disparu parce que tout le monde, fin 18e, 19e, ils se sont tous mis à tailler des pierres, des cristaux, entre autres, surtout pour les riches, les nobles. Et en fait, trop de trop, ça tue. Hein. Et donc, le métier de lapidaire a disparu comme ça, à force qu'il y en ait partout. Et c'est revenu début du 20e, tout doucement. Et là, aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'essayent. Hein. Mais après, on ne trouve pas vraiment des vrais lapidaires qui apprennent le métier. Des écoles, il n'y en a pas. On ne trouve pas vraiment d'école de lapidaire. Hein. Donc, il faut tomber sur un ancien qui est d'accord pour former. Hein. Moi, c'est la chance que j'ai eue. Hein.
Florence, nous sommes vraiment dans la création. Là, il faut être vraiment créative, comme vous l'êtes. Mais il faut se projeter, il faut rentrer quelque part, peut-être dans la pierre aussi.
Après, les métiers d'art, c'est difficile d'en vivre actuellement, surtout au niveau des pierres, parce qu'on est envahi de boutiques, les marchés, c'est que des pierres, il faut se démarquer. Et moi, c'est un petit peu ma force, hein. J'ai cette créativité, et quand je stresse, je crée. Mon cerveau, il a un système de sécurité qui fait que j'ai des idées, et à chaque fois, je m'en sors comme ça. J'ai beaucoup de chance sur le terrain aussi, parce que je trouve des trucs, mais improbables. Et en fait, je tombe dessus par hasard. Je suis tombée comme ça sur des pyrites noduleuses, sans connaître l'endroit. Je suis tombée sur les hauteurs, les sommets, des marbres rouges. Bon, des choses qu'on ne voit pas comme ça, quoi. Donc, c'est motivant. Et après, bon, faut avoir la niaque. Hein. C'est des métiers, si on n'a pas la niaque, on ne peut pas le faire. Hein. Voilà, donc, peut-être comme les pigeons, hein, j'ai peut-être un truc dans le cerveau qui fait que je suis dirigée pour trouver les pierres, hein, mais des fois, c'est assez étonnant, hein, vraiment. Hein.
Nous sommes dans la pierre, la pierre dans sa beauté, la pierre étrangère, vous l'avez dit, la pierre locale. Alors là, c'est vraiment votre, peut-être, mission. Hein. Cette pierre locale, elle est quelque part, vous êtes implantée dans un lieu bien spécifique que vous avez choisi et qui vous va bien.
Bah, en fait, vous me mettez en plein Paris, je vous trouve des pierres. Hein. En fait, je voulais montrer qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour voir nos trésors, parce qu'on a des trésors et on marche dessus. Et en fait, quand les gens ils viennent à l'atelier, je leur montre une pierre quelconque que j'ai trouvée dans le Luberon. Et par exemple, vraiment un vulgaire caillou. Hein. Quand on le taille, c'est une merveille. C'est que des cercles concentriques avec des couleurs. Voilà. Et c'est un petit peu ça, moi, qui me motive. C'est comme les pochettes surprises. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Bon, après, au bout de 12-15 ans, je commence à avoir une petite idée. Quand je trouve une pierre avec une couleur, ça va me donner des indices. Mais je ne suis jamais sûre de ce que je trouve dedans. Hein. Et en fait, c'est ça, je suis comme les enfants. Hein. J'adore chercher et trouver. Hein. C'est la surprise. Des fois, j'ai des belles surprises.
Pour ça, il vous faut quand même un lieu, je pense, qui vous inspire aussi. Et ce lieu, vous l'avez sciemment choisi?
Ah non, j'ai rien choisi du tout. J'ai atterri dans le sud par hasard, mais je ne crois pas au hasard. En fait, j'ai fait appel au réseau Ville et Métiers d'Art. Ça a commencé comme ça en 2009. J'ai atterri à Toulon. Et après, j'ai répondu ici à un projet par rapport à la ville de Sisteron qui cherchait des artisans d'art. Et en fait, ça a été vraiment... Le chemin s'est ouvert. Hein. Et quand je suis arrivée ici, j'ai des anciens qui sont venus me voir en me disant « Tiens, là-bas, il y a des pierres. » D'autres personnes « Tiens, là-bas, il y a d'autres pierres. » Et en fait, les gens, ils pensent qu'on taille toutes les pierres. Mais on ne taille pas toutes les pierres. Par contre, ça m'a permis de trouver des endroits. Bon, la Durance, ça, c'est m'appartient, c'est ma rivière. Après, il y a d'autres endroits où on trouve des choses, mais improbables. Ça descend des montagnes, mais il faut être là au bon endroit. Moi, ce que j'aime, c'est que souvent, je suis au bon endroit sans le savoir. Voilà, et du coup, j'ai mes trésors. Et je ne ramasse jamais beaucoup. Je ramasse un petit peu de pierre, et après, je les taille pour voir ce que ça donne, et après, j'y retourne. Bon, sauf si c'est en altitude.
Là, nous sommes dans un atelier, votre atelier. Nous sommes où ?
Alors, j'ai mon nouvel atelier. Moi, j'étais à Sisteron, donc je faisais partie des métiers d'art de Sisteron. Je suis partie il y a 2 ans, parce que j'ai eu la chance de trouver un atelier sur le bord de la route, comme je voulais, avec la vue sur la montagne de l'autre côté, et surtout un beaucoup plus grand atelier, et de quoi stocker mes pierres. Et donc, le miracle a eu lieu. Voilà, j'ai un grand atelier où je peux entreposer, mais il est encore trop petit. Parce que moi, j'amasse. Voilà.
Vous taillez et ensuite, il faut polir également. Quelles sont les phases par lesquelles passe la pierre et par la même occasion passe l'artiste que vous êtes ?
Alors moi, je pars d'une pierre brute, je fais une tranche. Je pars d'une pierre, je vais couper une tranche sur le haut et sur le côté. Pour voir comment elle a poussé déjà, parce qu'on a un sens. Hein, quand on taille une pierre, on ne taille pas n'importe comment. Vous avez un sens, si vous la prenez à l'envers, elle peut casser. De l'autre côté, elle ne cassera pas.
Il y a aussi une inspiration quand même de votre part.
Au début, oui. Mais après, ce qui m'intéresse, c'est plus elles sont pourries, plus j'ai hâte de voir comment on peut les transformer. Parce que c'est presque comme de la magie, en fait. D'ailleurs, tous les gens qui viennent, quand ils voient la transformation, ils ressortent d'ici, ils ne voient plus les pierres pareilles. Parce qu'on n'est pas dans la pierre précieuse, mais ça devient précieux esthétiquement. Voilà, et c'est ça qui est intéressant dans ce métier. Hein. Et donc, je commence par une tranche, comme une tranche de jambon. Hein. Après, je vais découper un cercle, un ovale, tout dépend de la forme que je veux faire et de ce que la pierre me permet. Et après, je vais commencer à mettre en forme avec ma meule, donc je vais rogner. Je vais la rayer. Donc une fois qu'elle est formée, elle est toute rayée, il faut retirer les traces de rayures. Donc on va commencer le polissage en retirant, première étape, ces traces de rayures. Et ensuite, on va commencer le brillant. Donc en partant de meules avec des gros grains jusqu'à des plus petits pour obtenir du brillant. Après, toutes les pierres ne brillent pas. Et moi, j'avais demandé à mon prof à l'époque pourquoi il y a des pierres qui restent mates. Et lui m'avait dit que c'était chimique, c'était comme ça. Donc il y a des pierres qui vont briller, d'autres qui ne brillent pas. Alors moi, j'aime pas le super brillant. Hein. J'aime bien le matifié. Après, c'est la pierre qui décide de son brillant, de la façon dont on va la tailler.
Hein. C'est très minutieux ce que vous faites. Est-ce que vous ressentez une vie dans la pierre quand vous la travaillez ?
Après, une vie, on ne peut pas dire ça. Après, alors moi, je ne fais pas de lithothérapie, je ne vends pas de magie. Par contre, je suis plus dans les croyances populaires et les médecines populaires. Parce que dans nos régions, on a des histoires très, très intéressantes. Et la pierre emblématique de notre région, c'est la variolite, hein, qui était la pierre des bergers. C'est un basalte. Et si on étudie les basaltes, depuis la nuit des temps, ils s'en servaient pour soigner, en fait, pour retirer les fièvres. On a des plaques de basalte du côté du Puy-en-Velay, à la cathédrale, où les gens ils se couchent dessus pour sortir les fièvres. Donc ça, ce sont des croyances populaires. Ça m'intéresse. Je trouve que ça tient plus la route que la lithothérapie.
Quand on se lance comme vous dans le travail de la pierre, est-ce qu'on sait de quelle façon on va finir ?
Ah, ça peut casser. Alors moi, j'ai appris, notre prof, il était extrêmement dur. Il nous arrachait les pierres des mains quand il y avait des défauts, il nous les jetait. Hein. Donc nous, on allait dans la poubelle les récupérer et ça cassait. En fait, il nous a appris à ramasser et les choisir. Donc pas de défauts, pas de fissures. Il faut essayer de trouver les pierres les plus saines possibles. Alors on n'est pas dedans, mais déjà on va gagner du temps. C'est surtout pour gagner du temps et économiser le matériel qui coûte très cher. Voilà, donc moi j'ai appris comme ça. Donc aujourd'hui il doit être content mon prof, mais bon il est décédé. Hein, mais il doit être fier je pense, parce que j'ai suivi ses conseils. Hein.
Donc vous ne connaissez jamais la fin quand vous vous lancez en fait.
Si, mais le résultat il n'est pas abouti à 100%. Il faut attendre vraiment la fin. Voilà. Et quand on s'arrête de tailler, donc on travaille à l'eau, il y a quelquefois des réactions avec le fait que la pierre sèche, où là on peut avoir des craquelures, des choses comme ça. Ça j'ai remarqué. Pareil avec les quartz qui sont sensibles aux températures. Donc je l'ai montré à un cristallier qui ne me croyait pas que les quartz bougeaient. Et donc j'ai pris des photos une fois que je venais de les finir. Et j'avais des variations de température quand j'étais dans l'autre atelier. Et vraiment, on voit que ça travaille. Hein.
Ça bouge, mais sans casser ?
Ça peut casser. Par contre, il faut savoir les choisir dès le départ. Voilà, hein. Donc moi, j'ai appris. J'ai eu cette chance d'avoir un prof extraordinaire. Hein. Donc un vieux monsieur et qui ne voulait pas que je fasse des pendules d'ailleurs. Hein. Et il m'a aidé à faire le premier.
Il faut savoir pourquoi il ne voulait pas.
Parce qu'on n'est plus dans le rationnel. Donc moi, je fabrique un outil. Comme je dis, je ne vends pas de magie. Je fabrique un outil. Pourquoi j'ai voulu faire ça, j'en sais rien. Mais j'avais vraiment envie de le faire. Et en fait, je suis connue pour ça. Donc j'ai eu un reportage télé sur la fabrication. Parce que je ne tourne pas autour. Hein, je l'ai fait à la main. Et en fait, c'est devenu un objet d'art. Et un truc que je n'avais pas prévu, c'est qu'en fait, les gens en font collection. Donc j'ai des clients qui en ont, je ne vais pas exagérer, des centaines, parce qu'ils me suivent depuis 10 ans. Et comme moi, je m'ennuie vite, je suis toujours en train de me renouveler. Donc il y a toujours des nouveaux. Donc il y en a qui râlent au niveau du banquier, mais bon.
Est-ce qu'on peut dire que chaque pierre a vraiment son identité ?
Ah, je pense, ouais, énergétique, on va dire. Parce que tout corps vibre, hein, ça vibre les pierres quand même. Hein. Après, comment expliquer, j'en sais rien, mais... Moi, je fonctionne comme ça. Hein. Donc, je sens, je taille, je sens pas, je taille pas.
L'instinct ?
Oui. Ouais, je suis hyper intuitive. Hein. Je suis meilleure que mon chien sur le terrain, au niveau du flair.
Ils ont l'air bien, vos chiens aussi. Vous parliez de la pierre locale, donc vers laquelle vous vous orientez. L'étranger, ça vous a permis, la pierre étrangère, ça vous a permis de belles aventures, là aussi.
Alors, ça a commencé parce que j'ai une super comptable, en fait. Je lui ai demandé si je pouvais aller chercher des pierres. Alors, au départ, j'étais partie pour l'Australie, hein, aller ramasser mes pierres moi-même. Et puis, en fait, comme je peux voyager en culturel pour me chercher des pierres, j'ai atterri en Mongolie. Donc ça, c'était un rêve de gamine. Je me suis retrouvée dans le désert de Gobi et en me disant, je vais en vacances, je ne ramasse pas de pierres. Je suis rentrée avec 5 kilos. En fait, j'ai trouvé des chalcédoines bleues, c'est à perte de vue. Mais quand je vous dis bleu, c'est bleu. Hein. Des agates, mais j'en pleurais parce que je ne savais pas comment j'allais ramener ça. Et en fait, là-bas, il n'y a pas encore de... C'est pas très strict parce qu'on peut les ramener, les nomades, ils les vendent. Hein. Et du coup, j'ai ramené des agates du Gobi et extraordinaire. Et en fait, à partir de là, j'ai créé un groupe WhatsApp. Donc, les gens, ils voyagent avec moi. Et en fait, au retour, ils m'ont acheté les pierres qu'ils m'ont vu ramasser et qu'ils ont ramassé avec moi via le net. Et en fait, en rentrant, ils m'ont acheté mes pierres. Alors, j'en avais pas assez. Hein. Et après, donc, je suis partie en Turquie. Donc là, on rigole plus. La Turquie, interdit. On ne peut pas ramener des pierres. On est considéré comme trafiquant. Par contre, alors là-bas, c'était très frustrant parce que je suis tombée sur des agates roses en marchant. Et là, il faut laisser. Parce qu'une journée de prison, là-bas, vous en remettez pas. Hein. Même le temps que l'ambassade arrive, vous êtes traumatisé pour la vie. Et le dernier voyage que j'ai fait, c'est les îles éoliennes. Donc, je suis montée sur l'Etna. Je devais partir le samedi. Le mardi, il pète. Donc, j'y suis allée quand même. Et j'ai ramené des obsidiennes de Lipari, qui sont merveilleuses. Donc, qui sont incrustées de pierres ponces, en fait. Et ça, c'est des pierres qu'on ne trouve pas dans le commerce. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et là, je prépare l'Égypte, donc le désert blanc et le désert noir, pour trouver des silex rubénés.
Et on peut les ramener ?
Je ne sais pas encore, je suis en train de me renseigner. Mais il y a des astuces, il y a des moyens hein, de faire. Bon, après, je ne le dirai pas, parce que sinon, je vais finir en prison. C'est pas la peine. Mais j'ai des petites astuces d'hôtesse de l'air. Mais là, je verrai. Après, j'ai le temps de me renseigner au consulat pour voir comment je peux faire. Mais voilà. Et puis après, on peut aussi acheter des pierres, mais il faut les factures, sauf la Turquie. Ça ne marche pas comme ça. C'est un pays merveilleux, hein. La Turquie, moi j'ai adoré. Hein. Mais on ne touche pas aux cailloux, ni leurs kangals hein, sont protégés. Parce qu'on voit des kangals dans nos montagnes, mais les leurs, c'est des grosses races, c'est très très préservé, comme leurs chats. Ils ont les chats nageurs, donc ils sont très très conservateurs en fait. Hein, donc je prévois de nouveau l'Asie pendant l'année là, 2026. J'ai pris goût, hélas.
Florence Daluz, vous prévoyez beaucoup de choses, c'est vrai aussi, avec des journées portes ouvertes. Vous allez permettre aux personnes de voir et de vous rencontrer.
Oui, en fait, j'ouvre l'atelier donc deux week-ends consécutifs, surtout le dimanche. Et non-stop, donc pour les fêtes de Noël en fait, et ça incite les gens à venir voir aussi, parce que souvent les gens, il faut les inviter, ils n'osent pas venir, hein. Et je ne sais pas, la boutique a fait un peu luxe, donc ils n'osent pas rentrer, mais c'est un moyen de rencontrer les gens, et puis de discuter comme je discute avec vous, d'expliquer, de montrer, donc je montre beaucoup les pierres avant et après, et ça fascine, hein, les grands et les petits, hein. Voilà, et je montre aussi, alors des fois je ramasse des fossiles. À Poitiers, j'avais trouvé des éponges fossiles. Ça, par contre, je ne touche pas. Quand c'est nickel, je ne coupe pas. Par contre, je donne pas mal aux gosses et puis je montre. Voilà, je montre vraiment notre patrimoine parce que ça, c'est important de montrer sur quoi on marche. On n'a pas besoin d'aller loin des fois, hein. Même dans les plantes, hein, si vous saviez tout ce qu'on a. C'est... Puis on est une région, mais riche, riche. C'est extraordinaire, hein. Enfin, moi, je l'adore. Hein.
Alors, l'occasion de voir, ce sera de quand à quand et à quel endroit exactement ?
Alors, c'est le 6 et 7 décembre et le 13 et 14 décembre à Noyers-sur-Jabron. Donc, mon atelier est sur la départementale en venant de Sisteron, 10 km, juste avant le village, 500 mètres avant. Normalement, j'ai mis des guirlandes pour qu'on me voie. Il ne faut pas rouler vite. Et la barrière est bleue. Et donc, c'est 458 route de Sisteron, lieu dit Le Bessan, sur la départementale D946.
Pour tout renseignement ?
Alors, mon téléphone 07 87 58 77 35. Si vous venez de loin, il vaut mieux me prévenir avant. Et le site internet http://florencedaluzcreation.fr. Donc, les journées portes ouvertes auront lieu le samedi 6 et 7 décembre et le 13 et 14 décembre, donc samedi et dimanche, à partir de 10h30, non-stop. Ça se termine à 18h. Et vous pouvez me trouver sur internet, donc http://florencedaluzcreation.fr. Et mon téléphone, si vous venez de loin, 07 87 58 77 35. Voilà, au plaisir de vous recevoir et de partager la vie des pierres.